Vous écoutez l'Ambition au féminin épisode 164 et aujourd'hui je m'entretiens avec Cindy Pétrieux qui va nous parler de comment le monde de la naissance a besoin d'être révolutionné pour nous permettre de reconnecter à notre puissance de badass. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore, seule ou en présence d'invités, les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que j'ai une super entrevue à vous présenter aujourd'hui avec une femme que je respecte énormément. Ça fait un certain temps, peut-être un an, un peu plus que ça, que je la connais. Peut-être que je suis dans les patates. Cindy m'excusera. Mais aujourd'hui, j'ai une conversation avec Cindy Pétrieux. Qui est une personne extrêmement fascinante et que j'ai appris à connaître au fil des mois, autant dans mes programmes d'accompagnement, mais aussi dans sa propre pratique. Et ce que j'aime avec Cindy, c'est comment elle parle de sujets complexes avec précision, mais aussi avec une grande vision des différentes dynamiques oppressives qui existent dans le monde. Donc, je vous parle un petit peu de Cindy, puis après ça, je vous dis de quoi on discute dans cet épisode, et ensuite, ce sera à vous de découvrir cette belle conversation. Donc, Cindy est issue d'un milieu populaire, et elle a évolué dans un milieu où elle a vécu de multiples violences dès l'enfance. Est-ce que c'est ce qui a nourri sa soif de justice? Peut-être, mais elle n'a pas attendu de quitter les bancs d'école de l'école primaire pour défendre les droits de ses camarades. À 10 ans même, elle était indignée par les méthodes éducatives oppressives d'une de ses intervenantes et elle organise très sérieusement un boycott des cours pour dénoncer la situation et réclamer une rencontre avec l'intervenante et la direction. Donc cet engagement dans la défense des droits ne va jamais la lâcher. En syndicalisme étudiant, initiation d'un mouvement national pour le logement, étudiant en France, travailleuse pour un organisme de défense des droits en santé sexuelle et reproductive au Québec, c'est suite à son expérience personnelle d'enfantement et de maternité qu'elle affûta son esprit féministe et commença à s'impliquer dans la défense des droits en périnatalité. Comme militante d'abord, puis comme entrepreneuse, parce que Cindy, elle est une accompagnante féministe autour de la naissance. Dans ses croyances, hein, il y a le fait que la grossesse et l'enfantement constituent un rite de passage en puissance largement sous-estimé parce qu'on a désapproprié les personnes premièrement concernées, hein, en les faisant enfanter sous l'autorité médicale. Que ce soit pour les futurs parents, les mères ou parents trans et non-binaires ayant enfanté, ou les professionnels en périnatalité, Cindy offre de l'accompagnement individuel et des espaces féministes de réempuissancement collectif afin de vivre ou d'accompagner ce passage de la mise au monde dans leur autorité personnelle. Et donc, toute cette dimension qui est à la fois militante, activiste, vraiment ancrée dans la justice sociale et amener ça dans le milieu de l'enfantement, le milieu des doulas, le milieu de la maternité, pour moi, c'est une mine d'or de réflexion sur notre place de femme, sur notre place de personnes qui pouvons justement enfanter et de comment le pouvoir nous a été enlevé des mains à plusieurs reprises dans des lieux où justement on est le plus connecté avec cette puissance-là. Et la conversation qu'on a avec Cindy, on va discuter autant genre de pourquoi c'est ainsi, hein? Ça veut dire quoi une une naissance en puissance ou une mise au monde ou un accouchement en puissance 100. Et on va même parler de qu'est-ce qui arrive si on a été désempuissancé durant notre accouchement. Et Cindy, elle a de grandes connaissances et une grande sensibilité pour parler de toutes ces thématiques-là. Donc, j'ai super hâte que vous découvriez cette conversation. Et comme d'habitude, vos commentaires, vos réflexions sont toujours les bienvenus.
Hello, hello Cindy! Comment ça va? Bienvenue sur l'Ambition Féminin!
Merci, salut!
Je suis contente de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on va parler de ton expertise et de ta vision qui est... je trouve qu'elle est quand même unique. Je pense que tu dirais la même chose peut-être, je sais pas, genre à quel point c'est répandu dans le milieu de la naissance, ce genre de vision. Mais avant qu'on commence dans le vif du sujet, je voulais te poser la question, c'est quoi pour toi l'ambition?
Ah oui, j'avais oublié ça. L'ambition. L'ambition pour moi, c'est se permettre de rêver, d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Ouais, c'est tout.
OK. Quelque chose qui vous fait vibrer. Puis qu'est-ce que... Comment tu définis... Comment tu sais que quelque chose te fait vibrer? Je suis comme curieuse.
Tu sais, je suis une personne très intuitive, là. Fait que, on dirait que souvent, mon cerveau m'amène la réponse avant que j'ai eu le temps de faire tout le chemin de pourquoi ça a cette réponse. Et par la suite, j'ai eu le temps de refaire le chemin pour le comprendre. Fait que pour moi, quelque chose qui fait vibrer, c'est... Tu sais, mettons, je sais pas, tu te dis, je vais construire mon entreprise, ou j'ai envie de voyager à tel endroit, ou j'ai envie d'accoucher de telle façon, ou j'ai envie de m'alimenter de telle façon, puis ça fait un oui tout de suite en dedans de toi. Pour moi, ça veut dire vibrer. Ça n'empêche pas de faire le chemin d'aller valider ce oui d'une façon ou d'une autre, d'aller chercher... des informations supplémentaires, etc. Mais on dirait que c'est comme si ton corps te disait oui avant que ton cerveau ait le temps de te faire comprendre pourquoi. C'est ça que j'appellerais, moi, quelque chose qui te fait vibrer, là.
Intéressant. Puis toi, tu lis ça indirectement à l'ambition. Ben, directement plutôt à l'ambition. Puis je trouve ça intéressant que, selon ce que j'entends, c'est qu'il y a une dimension très intuitive et très en cohérence avec le corps quand on décide, justement, de entreprendre des projets ambitieux ou de s'autoriser, peut-être, certains rêves ou certains désirs.
Ouais, complètement. Ben, en tout cas, tu sais, moi, je suis une personne qui, dans son expérience de vie, a été très, très déconnectée de son corps, de par notamment de nombreuses violences physiques. Puis, c'est revenu dans ma vie du jour au lendemain. C'était très bizarre d'un coup de ressentir tout ça, toutes ces sensations-là. Puis, c'est un moment où j'ai pris une décision importante dans ma vie. Et c'est comme si, justement, le corps était comme « Ok, c'est là que ça s'en va ». Et ouais, c'est même si je suis une fille très dans sa tête, souvent quand je ressens dans le corps, je sais que là c'est vraiment la bonne affaire.
C'est vraiment intéressant, puis justement ça mène à peut-être justement commencer à parler de notre sujet du jour. Puis je voulais te poser la question, comment t'en étais arrivée à devenir une professionnelle, je sais pas si tu t'appellerais comme ça, mais du monde de la naissance, tu sais, pourquoi t'as décidé de te consacrer à ce milieu-là? Parce que encore une fois, tu sais, je trouve intéressant cette dichotomie entre, tu sais, les sensations corporelles, mais aussi le fait que t'es quelqu'un de beaucoup dans ta tête, mais qui travaille aussi beaucoup avec son intellect.
Ben, comment j'en suis arrivée là? Hey boy, à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, je suis comme, attends, je dois commencer le chemin où? Alors, je suis née en 1987 et... Mais en vrai, je vais quand même compter cette anecdote-là parce que elle est venue... C'est une anecdote que j'ai appris récemment et qui est venue faire beaucoup de sens sur mon parcours, sur mon chemin. Puis je rentrerai pas dans les détails de cette anecdote-là, mais ce que j'ai appris il y a moins d'un an sur ma propre naissance, c'est que je suis née dans un contexte de grande violence obstétricale où j'ai les médecins ont cru que j'étais mort in utero. Et finalement, ben, pas du tout. A priori, je suis bien en vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su que récemment et qui est venu apporter beaucoup de sens à mon chemin. Moi, je suis devenue enceinte de façon tout à fait voulue la première fois, mais en même temps, ça s'est passé tout de suite. Donc, j'ai été un peu surprise. Puis, j'avais pas personne dans mon entourage qui avait de bébé, qui avait de grossesse, quoi que ce soit. Donc, j'arrivais dans un monde complètement inconnu. Et j'ai fait comme je fais souvent quand j'arrive dans un milieu très inconnu, je suis partie en exploration. Rapidement, j'ai pris des décisions. Faut savoir à ce moment-là que moi, je vivais en France, mon chum québécois vivait au Québec. Donc déjà, première décision à prendre, qui traverse l'océan, c'est quand même une grosse décision. C'est moi qui ai traversé l'océan. Et j'ai eu la chance, l'opportunité, le privilège de vivre une grossesse et un accouchement accompagné par les sages-femmes au Québec et de vivre une naissance complètement, une mise au monde complètement extatique dans l'eau, en maison de naissance. Puis moi, quand je suis ressortie de cette expérience le lendemain, hein, avec mon bébé dans les bras, j'étais comme « Comment? Comment ça se peut qu'on nous fasse passer pour des si petites choses, si fragiles? » Puis je repensais à toutes ces scènes d'accouchement ou de début d'accouchement qu'on voit dans les films où les femmes ont l'air en panique, ont l'air en détresse. Ah! Et là, d'un coup, un homme éorique arrive, ralenti, faire le sauveur, alors qu'en fait, il n'a rien à faire. Puis moi, ce que je venais de vivre, c'était tellement ailleurs, c'était tellement dans un autre niveau de puissance que mon premier réflexe comme femme qui avant était militante dans les organismes syndicalistes, ça a été de comme, OK, il faut que ça sache, il faut que j'aille m'impliquer dans un organisme. Donc, j'ai d'abord été plus en défense de droit, donc plus dans la militance autour de la naissance, donc dans les organismes d'humanisation des naissances, dans les organismes aussi qui luttaient contre les violences obstétricales et gynécologiques. Donc ça, ça a été mon premier chemin, puis j'ai vécu, suite à ça, une expérience de fausse couche qui a été très difficile, dans laquelle il y a eu des violences obstétricales, et une expérience de césarienne qui n'a pas été facile non plus, qui n'a pas été le fun, je pensais jamais le fun anyway, une césarienne. Et donc, suite à cet événement-là, parce que c'est quand même une césarienne que j'ai décidé, que j'ai demandé à m'amener à arriver dans le processus parce que j'en avais besoin, parce que c'était ça, c'était notre chemin. Suite à cette expérience-là, j'étais comme, OK, en fait, je travaille pour changer le monde, c'est super, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant pour réduire les méfaits? Et donc, moi, je vois vraiment l'accompagnement à la naissance comme un outil de réempuissancement, de transmission, de recréer des liens de transmission qu'on a défait en fait par la construction patriarcale et capitaliste de notre société, mais je le vois aussi comme une approche de réduction des méfaits. Et je pense que comme pour n'importe quel changement social, on a besoin d'avoir plusieurs postures, on a besoin d'avoir des gens qui militent, on a besoin d'avoir des alliés, on a besoin d'avoir des gens révolutionnaires qui vont faire de la désobéissance civile, on a besoin de gens qui ont des approches de réduction des méfaits. Donc c'est ça. Donc moi aujourd'hui, je continue d'agir en militance, mais aussi dans cette approche d'accompagnement qui pour moi est une approche de réduction des méfaits et d'empuissancement des personnes qui vivent ici et maintenant la grossesse et l'accouchement.
C'est vraiment intéressant, puis il y a plein de questions qui émergent en moi, puis j'ai envie de toutes te les poser en même temps. Premièrement, je voulais juste noter à quel point c'est ça que je trouve vraiment unique dans ta façon d'approcher l'accompagnement à la naissance, c'est que comme la traditionnelle image qu'on a de la doula ou de l'accompagnant, c'est quelqu'un qui est vraiment très douce, vraiment dans une espèce de cocon, genre de douceur, du moins genre dans mon espèce de stéréotype. Et quand j'ai su que tu faisais ça, Et avec tout ton background militant et avec tout ce background anticapitaliste et féministe, tu sais, qu'il y a comme un... Justement, tu sais, toute cette force et puissance qui souvent n'est pas associée avec ce genre de milieu-là ou ce genre d'événement dans la vie. Puis c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ta façon d'approcher les choses. Ceci dit, je voulais savoir, tu sais, quand tu parles de réduction des méfaits, c'est quoi les méfaits dont tu parles, puis pourquoi est-ce que c'est important d'agir justement au niveau de ce moment dans la vie des femmes qui est l'accouchement, puis tu sais, ouais, c'est ça, genre, qu'est-ce que tu essayes ou qu'est-ce que tu penses qu'on devrait conscientiser davantage qu'on ne fait pas encore?
Il y a plein de questions dans ta question. D'abord, effectivement, pour peut-être, peut-être clarifier ce que j'appelle l'approche de réduction des méfaits, parce que c'est une approche qui est très utilisée, par exemple, dans tout ce qui est accompagnement par rapport aux personnes qui ont des dépendances, à des drogues notamment. C'est utilisé dans différents milieux. C'est pas un terme qui est tant utilisé dans le milieu des naissances. Mais, puis là, je veux pas faire non plus l'histoire des naissances, mais... On vit à une ère où il y a une surmédicalisation de la naissance. Puis quand je parle de surmédicalisation de la naissance, je dis pas qu'il faut enlever toute médicalisation, parce qu'évidemment, dans certains cas, c'est nécessaire. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les recommandations scientifiques, il se trouve que les pratiques hospitalières, les pratiques entourant la naissance sont largement surutilisées par rapport aux recommandations qui viennent des instances de santé. Donc, l'enjeu de la surmédicalisation, c'est que on crée des problématiques à force de, comme vouloir trop prévenir. Je donne un exemple très concret, l'effet nocebo. Bon, tout le monde connaît l'effet placebo. Tu prends une pilule, on te dit que ça fait quelque chose, en fait, elle ne fait rien du tout, puis ça fait quand même l'effet parce que dans ta tête, tu t'es dit que ça se faisait. Bon, je vulgarise, mais c'est un peu ça l'idée. Ben, l'effet nocebo, c'est par exemple, tu as un suivi de grossesse où on va tout le temps être en train de dépister tout au cas où. Ben, ça va te générer du stress. Mais là, si tu es stressé, on le sait que ça ne te met pas dans les meilleures conditions pour vivre ta grossesse. On le sait que ça peut avoir des répercussions physiques. Et ça se peut que ça crée des conditions, y compris que tu n'aurais pas eu dans un autre contexte. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Puis, pareil, autour de la grossesse et de l'accouchement, il va y avoir aussi... le fait de dire, ben là, on veut absolument surveiller, par exemple, le cœur fœtal avec un monitoring continu. On le sait que le monitoring continu, ce sont des études scientifiques qui le démontrent, que ça augmente les risques de complications parce que ça génère un environnement de stress à un moment où tu as besoin, physiologiquement parlant, de ne pas être dans le stress parce que tu as besoin de libérer de l'ocytocine, tu as besoin de libérer de l'endorphine pour que le processus puisse se faire. Donc, pour moi, l'approche de réduction des méfaits, puis bon, je donne ça, mais il y a un autre élément, c'est les violences obstétricales. On est dans une... C'est pas parce qu'on met une blouse blanche puis qu'on ouvre la porte de l'hôpital que d'un coup, médecin, infirmière, même sage-femme, etc., hop, tous les préjugés s'envolent. On est là avec notre bagage. Puis bon, moi, je ne suis pas de l'équipe médicale, mais les personnes des équipes médicales sont là avec tout leur bagage qu'elles ont dans la vie. Donc, si elles ont des préjugés, elles vont les porter aussi dans cet espace-là. Par exemple, on parle du syndrome méditerranéen. Ce syndrome méditerranéen, c'est d'attribuer aux femmes racisées, notamment d'Afrique du Nord, ce préjugé qu'elles se plaignent beaucoup plus, qu'elles sont beaucoup plus bruyantes que les femmes caucasiennes. Donc, on prend moins en compte leur douleur. Donc, on répond moins à leurs besoins pour soulager la douleur. Puis d'ailleurs, le syndrome méditerranéen, ce n'est pas juste pour l'accouchement, hein, c'est pour tout dans la médecine. Ça aussi, c'est connu, c'est reconnu, c'est étudié scientifiquement. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit les discriminations, les préjugés qui peuvent mener à des violences obstétricales, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, mais aussi l'usage de la surmédicalisation, ça crée un contexte, en fait, qui n'est pas bénéfique pour la personne qui est en train d'accoucher. Et donc, pour moi, l'accompagnement à la naissance, la pratique de la doula, c'est d'accompagner la personne qui traverse ce passage-là, de le faire avec un esprit critique, avec une information la plus large possible, parce que, pareil, dans les pratiques médicales, souvent, l'information qui va être donnée, c'est celle qui va dans le sens de la recommandation ou du conseil médical qui est donné, mais ce n'est pas forcément l'entièreté, ce qui devrait être, hein, pourtant, hein, légalement parlant, pour pouvoir parler de consentement éclairé. Donc, le rôle de la doula, pour moi, c'est de permettre à la personne d'incarner son autorité, de développer sa confiance, de reconnecter à peut-être des intuitions, qu'elles soient corporelles, émotionnelles, pour pouvoir se prémunir, c'est malheureux, mais se prémunir de vivre de la surmédicalisation, de vivre des violences obstétricales. Et en même temps, ben, on ne peut pas le prévenir, dans le sens que la figure oppressive, ici, ce n'est pas la personne qui est en train d'accoucher, c'est la personne qui donne les soins. Donc, c'est pour ça que je pense que l'accompagnement à la naissance ne suffit pas à faire changer le paradigme des naissances et qu'il faut aussi une militance pour faire changer le milieu des naissances et donc, en fait, agir sur la classe dominante, la classe oppressive, qu'elle change ses façons de faire, qu'elle change sa vision du monde. Dans le milieu médical, la naissance s'est vue comme un événement dangereux en puissance. Pourtant, toutes les statistiques nous montrent que l'accouchement, c'est un processus tout à fait sécuritaire où parfois il peut y avoir des besoins spécifiques, mais on parle vraiment d'un pourcentage très bas, beaucoup plus bas que le taux d'intervention, le taux de césarienne qu'on a actuellement, par exemple, dans nos pays du Nord. Ça, c'est la première partie de ta question. Ouais.
Non, mais avant peut-être qu'on passe à la deuxième partie, je sais pas, mais ça me fait penser aussi. En tout cas, moi aussi, j'ai accouché en maison de naissance avec des sages-femmes, puis finalement, j'ai décidé à la fin d'aller chercher l'épidurale, mais pour moi, cette prise de conscience, puis même si, bon, j'étais féministe et tout ça, mais elle s'est vraiment faite au niveau de mon expérience avec le corps médical dans un contexte, pas dans le contexte de la naissance. Fait que, tu sais, pour moi, c'est sûr que j'avais déjà des associations où j'étais peut-être un peu moins, tu sais, genre, j'avais comme vécu des événements traumatiques dans un contexte médical. Puis traumatique, c'est peut-être un grand mot, là, traumatique avec un petit T. Mais c'est ce qui m'avait amené à aller chercher plus d'informations sur la naissance. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre comme, ouais, mais finalement, quand on est dans l'hôpital, on te met dans cette position, mais c'est pas nécessairement la position la plus naturelle pour accoucher, etc., etc. Puis un peu comme toi, j'ai plongé dans ces choses-là, mais je pense qu'il y a aussi cette idée que, comme tu disais au début, la femme doit être sauvée, que la naissance est quelque chose de dangereux, que les seules personnes qui savent, c'est les personnes qui ont la blouse blanche, et donc de laisser aux autres notre autorité sur quelque chose qu'on devrait être qu'on est programmé génétiquement à être capable de faire. Fait que c'est ça, tu sais, comme t'écoutais parler, me faisait penser à cette réappropriation de notre autorité, mais aussi de notre corporalité, parce que notre corps, c'est des choses qu'on n'a pas eu à apprendre dans les livres, versus un médecin homme qui n'aura jamais accouché et qui n'a pas ça de codifié dans son génétique. Tu sais, lui, comment est-ce qu'il peut savoir davantage que nous qui accouchons depuis des millénaires? Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan.
ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire aller dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. T'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée « Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial », va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarque.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis, P-O-I-E-S-I-S. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet « Programme ». Maintenant, de retour à l'épisode.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est intéressant que tu amènes la question des savoirs, parce que l'approche médicale de la naissance, elle se base sur une hiérarchie des savoirs. Ou la médecine biomédicale, parce qu'il y a d'autres médecines aussi, hein, mais la médecine biomédicale, c'est comme le top de la hiérarchie. Puis ensuite, les médecines alternatives, les savoirs expérientiels, les savoirs émotionnels, tout ça, c'est comme si, bon, c'est pas important. Pourtant, puis j'arrive à la deuxième partie de ta question, du coup, sur la question de la signification de la naissance, de qu'est-ce que ça porte pour les femmes, pour les personnes qui accouchent. Bien, c'est un passage d'une très haute intensité pour différentes raisons, pour des raisons sociales. Devenir mère, ça veut dire quelque chose dans la société. Il y a quand même beaucoup de femmes d'ailleurs qui disent qu'elles sont devenues féministes en devenant mère, parce que c'est aussi parfois le moment où tu te prends en pleine face tout le sexisme de la société. C'est un changement social, mais aussi politique. On devient comme une figure différente dans la société, et de par le fait d'avoir des enfants, ça se peut qu'on se positionne différemment politiquement aussi. Je ne parle pas là de politique gauche-droite, etc. Là, je parle juste de comment, quelle place on veut tenir dans l'organisation de nos communautés. Parce que la politique, avant tout, c'est s'organiser dans nos communautés. Hein. C'est un changement corporel, évidemment. Le corps ne sera plus comme il a été. C'est un changement émotionnel, c'est un passage aussi spirituel. Donc, c'est sûr que quand on a toutes ces dimensions de soi qui sont en train de bouger et d'évoluer, c'est quand même un grand, grand passage. Puis c'est drôle parce que hier, je parlais dans un poste, j'ai vécu dans ma vie une expérience de mort imminente. Je suis encore là. Apparemment, j'en ai vécu même plusieurs, puisqu'à ma naissance, visiblement, mais un autre où j'étais adulte et dont je me rappelle. Et je peux te jurer que la sensation de cette expérience de mort imminente et de mise au monde avec toutes mes hormones, sans aucune pharmacologie, etc., il y a quelque chose de vraiment très, très proche dans le sentiment de plénitude, d'extase. C'est assez particulier. Il y a un processus aussi qu'on peut nommer. Moi, j'ai appris ça auprès de Wapio Diane Bartlett, qui est une sage-femme de renommée internationale. Mais il y a aussi, au Québec, on a Karine Laveza, alias Quantique Mama, qui en parle. En fait, notre glande pinéale, elle libère de la DMT dans différents épisodes de nos vies. Sauf que notre corps, il va l'inhiber. Bon, voilà, je vulgarise, là, je ne vais pas dans les détails. Au moment de l'accouchement, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on libère de la DMT. By the way, la DMT, si on ne sait pas ce que c'est une substance psychotrope, en fait. Lors de l'accouchement, il y a un processus qui fait que ce n'est pas inhibé. Et donc, il n'est pas rare d'entendre des témoignages, et je l'ai vécu moi-même pour ma première mise au monde, de personnes qui vivent une sorte de transe, qui vivent une sorte de comme des visions, qui vivent quelque chose vraiment d'une très grande puissance, mais qui est un peu hors corporalité, justement, très spirituelle. Puis moi, je n'étais pas du tout prête à ça. C'était vraiment très bizarre pour moi, mais... Je n'ai pas eu le choix que de constater que je me suis mise à parler une langue que je ne connaissais pas et que personne ne connaissait autour de la pièce. Fait que c'était quand même spécial. Mais c'est ça. Et il y en a beaucoup qui témoignent. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais qui témoignent d'avoir, par exemple, eu une vision des femmes de leur lignée, de leur mère, de leur grand-mère, etc. Comme si elles étaient supportées dans ce moment-là. Et souvent, ce processus-là, il arrive juste avant la poussée, la mise au monde en tant que telle. Donc, je me perds un petit peu parce que j'en aurais tellement à raconter, mais pour revenir à la base de la question, l'enfantement, on l'a tellement mécanisé dans notre société, on l'a tellement industrialisé, j'ai envie de dire, parce que d'ailleurs, quand tu regardes les processus à l'hôpital, comment ils sont faits pour accompagner un accouchement, on est vraiment dans un modèle fordiste, hein. Bah, d'ailleurs, comme tout le système de santé où les tâches sont segmentées, il y a l'infirmière qui fait ceci, il y a telle infirmière qui fait cela, etc. Il y a le médecin qui vient pour l'accouchement, il y a l'infirmière pour le postnatal, il y a l'infirmière pour l'allaitement, enfin bref, tout, on est comme sur une chaîne de montage, puis tout est vraiment distingué. Et donc, dans... qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Moi, j'ai le don de me perdre parfois dans mes idées. Mais donc, c'est ça. Dans ce modèle, on a tellement mécanisé que c'est devenu un passage qui a perdu toute sa signification, qui ne reconnaît même pas aux personnes qui, eux, portent une signification pour la naissance, qu'elle est là, cette signification. Donc, puis d'ailleurs, si tu regardes la philosophie de pratique sage-femme au Québec, il y a une phrase très spécifique qui dit « Nous, sage-femmes du Québec, reconnaissons aux femmes et à leurs familles la signification profonde qu'elles-mêmes portent sur leur propre processus de mise au monde. » Bon, c'est à peu près ça la phrase, là. Et je pense que c'est ça aussi que je veux accompagner avec les personnes que j'accompagne, c'est de pouvoir vivre ce processus-là dans tout son côté initiatique, parce que je pense que quand tu arrives à retrouver ton pouvoir dans la mise au monde, puis by the way, la mise au monde, que ce soit naturelle, extatique ou par césarienne, hein, peu importe, la question c'est quand toi tu as retrouvé ton pouvoir là-dedans, c'est pas les modalités. Je pense que quand tu retrouves ton pouvoir dans ce processus-là, et ben après, tu es tellement aligné, tellement badass que tu vas le réinvestir dans plein de sphères de ta vie, dans ton entreprise, dans ta job, dans ton couple, dans ta famille, dans tes projets communautaires, peu importe. Donc, je trouve que c'est comme un... Tu sais, en littérature, on parle d'un climax, là. C'est vraiment un climax de vie que c'est le fun d'aller investir. Enfin, je trouve.
Ouais, puis je pense que justement, c'est là le lien avec le féminisme, puis peut-être que les gens... ne réalise pas à quel point de reprendre le pouvoir sur cette expérience-là qui est propre à soi et dans laquelle on devient la guide, l'autorité, mais aussi l'unique personne qui est en charge aussi de cette expérience jusqu'à un certain point. C'est là qu'il y a une transgression féministe du modèle régulier dans lequel on a été élevé. Puis je pense que, bon, tu disais tantôt que certaines femmes deviennent féministes avec l'accouchement. Ben même si on ne l'a pas conscientisé, si on est capable de se réapproprier cette puissance, ben c'est là qu'on est capable de changer la perspective sur qui on est dans un système qui a été bâti pour nous rappeler qu'on n'a pas de pouvoir. Mais cette expérience nous ramène toujours dans ce pouvoir-là qu'on ne peut pas nous enlever jusqu'à un certain point.
Ben oui, complètement. Ça nous ramène là. Si tant est qu'on ait eu le privilège, l'occasion, l'entourage qui nous permet de l'envisager autrement que comme on nous dit de l'envisager, parce que Tu sais, typiquement, là, quand tu as un suivi en clinique médicale ou à l'hôpital, les rendez-vous sont très rapides, tu n'as pas vraiment le temps de poser tes questions. Parfois, tu es un petit peu ridiculisé dans tes questions. Moi, j'ai vécu un début de suivi à ma première, justement, par un gynécologue en France. Ça a été la totale, quoi. J'ai été ridiculisée, j'ai été frappée même, en fait. Ça, c'était quand même quelque chose. Frapper mon ventre pour faire bouger mon bébé. Mais j'ai tellement d'une force que j'ai figé. J'ai figé. Fait que c'est ça, tu sais, parce que je trouve que... Puis tout à l'heure, tu disais, hein, j'étais surprise de voir que t'étais doula, en fait, avec tout ton background militant et tout ça. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'il y a énormément de doulas qui sont tout à fait militantes. Alors, avec des degrés différents, avec des façons de le nommer différemment. Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup que c'est par un certain militantisme qu'elles ont décidé d'aller vers cette pratique-là. Peut-être qu'il y a quand même un certain nombre d'oppressions intériorisées qui amènent à avoir la pratique d'une certaine façon, comme on attend qu'elle soit, etc. Puis tu sais, c'est sûr que moi, quand je suis avec mes clientes en plein accouchement, je sais aller chercher toute la douceur en moi. Hein.
Mm-hmm. Oui,
mais il y a ça. Mais en revanche, je trouve qu'il y a beaucoup un discours de puissance, de retour à la puissance, etc., qui peut vite être essentialiste. Mmh. Tu sais, genre, notre puissance de femme, notre nature, quand les hommes et les femmes retrouvent leur rôle primo, etc. Et ça, je trouve ça dangereux parce que finalement... Puis je comprends pourquoi certaines personnes passent par là pour se réempuissancer, mais finalement, on vient renforcer les stéréotypes, on vient renforcer le système dans lequel on est, alors que je crois que enfanter dans sa puissance, ça n'a rien à voir avec son essence féminine, autant que avec des processus physiologiques. Personne t'a appris à respirer, personne t'a appris à aller faire caca, et ton corps le fait. En fait, accoucher, c'est un peu pareil, et c'est complètement pareil même d'ailleurs, si ce n'est que c'est plus le fun qui sort, et après ça, comment tu retrouves ta confiance en ton corps à le faire, quoi.
Ouais, puis justement, puis j'aime que tu fasses le point sur le danger de l'essentialisme, parce que c'est sûr que quand on parle de ça, tu sais, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont eu des expériences pas optimales, justement, ou même traumatiques au niveau de leur accouchement, ou qui ont décidé de pas avoir d'enfant, ou peu importe, là. Mais comment tu... adresserait ou un message à passer à celles qui sont encore dans un trauma de leur accouchement ou qui ont vécu une expérience désempuissançante à travers leur accouchement. Tu sais, puis est-ce que c'est important, puis à quel point est-ce qu'on peut réparer ce moment-là si besoin, du moins au moins à l'intérieur de nous.
C'est sûr qu'il y a plein de situations différentes, mais j'ai envie de dire, je vous entends, je vous crois, c'est la première chose, parce qu'on est tellement, quand on vit une expérience difficile, puis encore une fois, tout à l'heure, quand je parle d'accouchement en puissance, c'est pas une façon d'accoucher, quand je parle d'accouchement difficile, c'est pas non plus une façon d'accoucher. Il y a des filles qui vivent super bien leur césarienne, il y en a d'autres pour qui c'est l'horreur. Il y a des personnes qui vivent super bien leur accouchement ultra rapide en 1h30, il y en a d'autres pour qui au contraire ça a été très difficile parce qu'elles ont comme pas eu le temps d'arriver dedans, etc. Donc accouchement difficile, ça veut pas dire une modalité d'accouchement. Je veux vraiment mettre ça au clair. Et on est très souvent quand on nomme qu'on a vécu ça difficilement, que ça n'a pas été comme on voulait, qu'il y a beaucoup de tristesse peut-être associée, qu'on pleure même, on se fait toujours retourner d'un revers de la main par cette fameuse phrase que je ne supporte plus, que je ne supporte pas, Le plus important, c'est une maman et un bébé en santé.
Mm.
OK. Et ma santé mentale, t'en fais quoi? T'sais? Fait que il y a vraiment... je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais c'est décrédibilisé, en fait.
Mm.
Puis pareil, une femme qui va avoir vécu un accouchement hyper rapide, mais du coup, elle l'a mal vécu parce que, pour x, y raison, ben là, t'as eu l'accouchement parfait, t'as eu l'accouchement de rêve, plains-toi pas. Fait que, on dirait que quelle que soit la sorte d'accouchement qu'on a eu, quand on l'a vécu de façon difficile, on n'est pas cru, on n'est pas entendu. Puis là, tu t'allais un peu vers comme des pistes de solutions quand ça a été difficile. Je pense que la première étape, c'est de trouver, autant que peut se faire, des personnes qui vont juste nous entendre et nous écouter. Juste ça, déjà. C'est un espace où on peut sortir ce qui est là, sortir ce qui nous touche émotionnellement. Il y a quand même des super beaux espaces pour ça. Il y a des doulas qui font des cercles d'accouchement difficile. Il y a des organismes à Montréal, je pense à Alternative Naissance, qui fait des groupes de parole, je pense à tous les trimestres, peut-être même à tous les mois, en tout cas sur l'accouchement difficile. Moi, je l'avais fait personnellement après ma césarienne, ce groupe de parole. Et ça n'avait pas été un processus facile, mais ça a été... puis j'avais déjà fait un bout de chemin avant, mais ça a été vraiment puissant. Puis il y a des choses qu'on peut envisager aussi, ce qu'on appelle par exemple la refacilitation de naissance. L'idée, c'est, je vais vulgariser un peu, dans une sorte de relaxation guidée, de visualisation guidée, de revivre la naissance, l'accouchement, mais au moment où ça a chaviré, de poursuivre l'histoire de la façon dont on l'aurait désiré, plutôt que la façon dont ça s'est passé, et de revivre la naissance. Puis c'est vraiment fucké la fin. Moi, quand j'ai fait une refacilitation de naissance, puis écoute, j'ai eu comme des contractions, j'ai ressenti des contractions. C'était vraiment, c'était fou. C'est mon amie sage-femme qui me l'avait facilité. Puis évidemment, bébé n'est pas là à ce moment-là, donc bébé était dans ses bras. Et au moment comme de la naissance dans la refacilitation, elle avait entre-temps, j'avais rien entendu, elle avait entre-temps déshabillé bébé, puis elle me l'avait présenté, puis c'est comme si je l'accueillais à nouveau. Puis moi, ce qui avait été traumatique dans mon expérience, c'était de pas avoir pu accueillir mon bébé comme je voulais, encore plus que le fait d'avoir une césarienne, parce que quand il me l'avait mis sur moi pour faire du pot à pot, ce que j'avais demandé, je tremblais tellement à cause de la rachianesthésie, je transpirais, je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Puis mes premiers mots, ça a été enlevez-le-moi, enlevez-le-moi, et je m'en suis tellement voulu d'avoir que mon bébé entende de ma bouche comme premier mot ces mots-là. Mm. Donc le fait de revivre l'accueil avec lui, de pouvoir lui dire « je t'aime », whatever, je ne sais plus ce que j'ai dit, ça a été très guérisseur. Donc il y a plein d'autres choses qu'on peut aller explorer, plus ou moins spirituelles, plus ou moins rationnelles, plus ou moins sociales. Je donne deux exemples là qui sont très concrets que j'ai traversé moi-même, que j'ai trouvé très impuissant. Puis sinon, il y a aussi aller dans des espaces pas forcément dédiés. Mais moi, j'anime par exemple régulièrement des cercles de parole, ce qu'on appelle aussi parfois des portes rouges. Le fait de pouvoir venir déposer une parole et d'être écouté, entendu, sans recevoir des conseils, parce que ça, c'est l'autre truc aussi. Tu sais, tu racontes ton histoire, puis là, l'autre personne dit « Ah, mais là, t'aurais pu faire ça. Ah, mais là, il faudrait… » Mais non, mais en fait, tais-toi. Je veux juste raconter. J'ai juste besoin de le sortir de moi. Fait que c'est ça. Je pense que c'est… Puis après, il y a le temps. Le temps. Ça prend du temps. Il faut laisser le temps faire son œuvre aussi là-dessus. La parole… On sous-estime la force de la parole, de pouvoir déposer une parole en étant entendu, écouté avec empathie. Je crois que c'est la chose la plus guérisseuse de toutes.
Oui, puis merci pour tout ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis je pense que aussi, tu sais, enlever le secret autour des accouchements, tu sais, puis de remettre ça dans un collectif qui est supportant. Puis tu sais, tantôt quand tu parlais genre de la vision de la lignée de femmes, tu sais, je trouve que, du moins moi, mon expérience, ça a été de pas avoir... Moi, ma mère, elle a eu deux césariennes, puis ça a été ça. Fait que j'ai pas eu nécessairement une communauté de femmes qui m'a préparée pour ça, puis c'est ça que je suis allée chercher, moi, chez les sages-femmes, puis dans ces milieux-là, de me sentir que je faisais partie d'une communauté qui pouvait m'initier là-dedans aussi un peu. sans que j'aie à tout apprendre dès le début. Et je trouve que ce que tu viens ajouter aussi, c'est ben, qu'il vient aussi nous soutenir après l'événement, parce que c'est pas vrai que quand le bébé sort, ben, c'est la finalité, puis que that's it, that's all. Là. Il y a comme un processus de devenir aussi. Puis là, on en parlera pas parce qu'on n'a pas le temps, mais pour moi, il y a eu... j'ai découvert le mot matrescence que je ne connaissais pas pendant... après l'accouchement. Puis juste pour ceux qui écoutent, moi, comment je le comprends vraiment de façon très simple, c'est dans l'adolescence, il y a un changement d'identité. Ben lors de la maternité, il y a un changement d'identité qui s'opère, puis ça peut être tout aussi difficile que ce qu'on aurait vécu dans d'autres moments de transformation identitaire. Puis ça m'a vraiment ouvert à rechercher des espaces où il y avait d'autres personnes qui étaient capables de me parler de cette chose-là dont personne ne parle publiquement, j'ai l'impression.
Tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est vraiment ça que je fais avec le Cercle des Badass, là, qui est un cercle de mères, une communauté de mères féministes, parce que moi, ce que j'ai trouvé difficile dans cette période de j'aime pas le mot matrescence, là, mais bref, dans cette période-là, c'était de connecter avec des mères. Je l'ai fait beaucoup. Moi, je crois beaucoup que il faut collectiviser nos expériences pour être capable d'avoir un pouvoir dessus. Donc, je l'ai fait beaucoup, mais ça résonne. Tu sais, je rencontrais beaucoup de femmes avec qui ça résonnait pas forcément, quoi. Moi, je suis une militante, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à la politique, je suis très féministe, dans le sens que c'est un sujet qui m'anime au quotidien. C'est ça, je trouvais pas beaucoup de personnes avec qui il y avait un fit. Et donc, c'est ça qui m'a poussée aussi à créer le Cercle des Badass, c'était de créer une communauté de mères qui vit sa maternité en se questionnant sur les questions d'égalité, que ce soit pour soi-même dans son couple, dans sa communauté ou pour l'éducation de ses enfants, qui se questionnent sur l'impact justement du patriarcat sur nos trajectoires, sur nos maternités, et comment est-ce qu'ensemble on peut aller se libérer d'un certain nombre d'oppressions intériorisées, d'un certain nombre d'oppressions non intériorisées aussi, pour pouvoir réinventer nos modèles de façon plus alignée pour chacune et pour tout ensemble.
Ouais. Puis, juste peut-être comme pour clore cette conversation, j'aimerais ça peut-être que tu nous dises comment toi, tu navigues à travers tes différentes identités en puissance centre. Parce que moi, une chose qui m'a souvent... j'ai jamais voulu, tu sais, comme justement me réduire, entre guillemets, à l'identité de mère, si bien que, tu sais, j'ai jamais rejoint des cercles de mères en affaires ou des choses comme ça, puis j'ai jamais voulu non plus mettre cette partie de moi de l'avant dans mon brand ou dans mon entreprise. Et même quand que je rencontre des gens, des fois, je réalise que les gens vont me dire « OK, j'ai genre tant d'enfants » puis tout ça comme ça, puis moi, parfois, ça me vient même pas à l'esprit de partager c'est quoi ma situation familiale. Et je me demande comment toi, tu navigues justement à travers tes différentes identités en puissance centre, puis comment tu... tu sais, quelle place tu fais à la maternité dans cette multitude de parties badass qui font partie de toi? C'est une question très, très vague, puis n'importe quelle... Je pense que la façon dont tu vas y répondre, ça va être parfait, parce que je réalise que je suis comme... Qu'est-ce que je m'attends comme réponse? Je ne sais pas, mais je te lance ça comme ça pour voir comment ça résonne.
C'est vraiment drôle, parce qu'il y a quelque temps, on était dans un cercle de doula, donc quasiment tout le monde s'était présenté aussi en disant combien elle avait d'enfants. Et moi, j'ai complètement oublié cette partie-là dans le tour de présentation. Alors qu'en plus, c'était le sujet. Fait que c'est assez drôle de... Ta question, en fait, elle me fait sourire, elle me fait réagir, elle me rappelle cette anecdote-là. ce qui est monté pendant que tu parlais, c'est comme la maternité, c'est un élément d'identité, mais c'est aussi une intersection. C'est-à-dire que comme femme dans la société qui n'a pas d'enfant, versus une femme dans la société qui est mère, et qui en plus, ça peut même être additionné, cette identité-là, ça peut être mère solo, ça peut être mère mono, ça peut être mère racisée mono, enfin bref, c'est une intersection d'identité qui veut pas, amène aussi à vivre certains systèmes d'oppression, certaines discriminations. Donc, moi, ma maternité, je te dirais que au-delà de la vie courante à tous les jours avec mes enfants, dans les espaces dans lesquels je suis, je la conceptualise vraiment comme ça, comme une intersection, et que du coup, il y a nécessairement je cherche mon mot, mais il y a des actions à prendre pour mieux l'intégrer à la réalité. Je donne un exemple très concret. Moi, je me suis toujours promis que je m'interdirais et que je m'empêcherais rien parce que j'ai des enfants. Plusieurs fois, je suis allée à des colloques avec mes enfants, bon, rarement avec les trois en même temps, là, mais au moins avec un, mettons, notamment quand ils étaient tout bébés, parce que ça s'y prête bien quand ils sont tout bébés, oui, ils sont au sein où ils dorment, fait que ça ne dérange pas beaucoup. Hein. Je voyais souvent quand j'arrivais les regards des gens un peu comme « Oh my God, mais voyons », tu sais, parce que je ne demandais jamais la permission d'avance. Ça, c'est un truc hein, de base. Ne pas demander la permission. Parce que si tu demandes la permission, tu t'attends à pouvoir recevoir un non. Si toi, tu ne veux pas recevoir de non, ne demande pas la permission. Enfin, j'allais avec mes bébés, je ne demandais rien à personne. Et souvent, ce qui se passait à la fin du colloque, on venait me voir en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es courageuse !»« Ouh là là, ça m'a fait questionner sur la place des enfants dans notre société !» Ou « Oh, tu sais !» Et donc, en fait, y compris ma maternité, je vais la vivre comme, pour moi, un geste politique. Pareil avec mon accouchement non assisté, ma dernière, j'ai décidé de m'émanciper du suivi médical de grossesse, j'ai arrêté mon suivi sage-femme, j'ai accouché chez nous avec mon chum, pas de médecin, pas de sage-femme, c'était un cheminement avant tout personnel, mais évidemment que dans les sphères peut-être un peu plus publiques, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans des podcasts ou whatever, je l'assume et évidemment comme un geste profondément politique et féministe. Donc c'est comme ça que je la vis, ma maternité. Puis en même temps, je trouve important, parce que parfois on se fait une image de la mère féministe qui est la mère qui néglige ses enfants, etc. Souvent les gens sont surpris de voir que j'ai un maternage assez proximal. Ma grande fille, elle a été sevrée à 5 ans, mon fils à 30 ans encore, j'ai fait beaucoup de portages, qui sont des choses qu'on retrouve souvent plus dans la sphère du féminisme essentialiste, justement dans le milieu de la maternité. Fait que voilà, j'aurais pu parler encore plein d'autres choses, des éléments de réponse. Je pense que ce que profondément je souhaite pour moi et pour d'autres, c'est que on puisse vivre nos maternités comme en longtemps, que ce soit critiqué par d'autres féministes ou critiqué par des anciens essentialistes ou par des vieux mon oncle. Peut-on juste vivre comme on a envie de vivre nos maternités, dans notre propre intérêt et celui de nos enfants, et aller... l'expression qui monte, c'est celle que ma sœur dit toujours, aller leur dire d'aller se faire cuire le cul.
Je pense que c'est la meilleure phrase de fin de podcast qu'on a eue depuis le début de cette émission. Donc, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit à ça. Cindy, merci infiniment pour cette conversation. Dis-nous où tu es active pour qu'on puisse te suivre et te découvrir si c'est la première fois qu'on t'entend, ou du moins communiquer avec toi. Si jamais on veut un suivi doula ou... autre chose, avec des belles conversations avec toi.
Et il y a plein de places où on peut me trouver. Le gros avantage que j'ai dans la vie, c'est que je suis la seule Cindy Pétrieux au monde. Enfin, que tu tapes Cindy Pétrieux sur Google, anyway, tu vas tomber sur moi. Ça, c'est quand même génial. C'est genre, j'ai fait une belle job de CEO, là, tu sais. Mais... je voulais dire de SEO, pardon, bref, je me suis mélangée dans mes lettres là. Mais en tous les cas, je suis surtout présente sur Instagram, sur Facebook, sous mon prénom et mon nom. Puis comme je suis aussi impliquée à l'Association québécoise des doulas, on trouve aussi ma fiche sur le site acudoula.com. Voilà. Mais Cindy Pedrieux sur Google, puis tu me trouves.
Génial. Merci beaucoup pour cette conversation. Puis on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Merci Cindy, à la prochaine conversation. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.